Carasson, qui est une auteure sur laquelle je passe en ce moment beaucoup de temps et sur laquelle je travaille beaucoup. Alors, quelques mots juste du contexte, simplement pour clarifier un peu la question que je voudrais travailler ici. En fait, quand j'ai fait cette présentation, il s'agissait de réfléchir à la façon dont la littérature défigure ou figure, reconfigure le territoire, compose, recompose le territoire, et à la façon dont les textes écrivent ou réfléchissent un territoire qui est toujours palimpseste, c'est-à-dire un agencement de strates culturelles, politiques, religieuses, sociales, imaginaires, qui sont multiples. C'est donc dans le cadre de cette réflexion sur les formes littéraires donc d'un territoire palimpseste que s'inscrit donc cette présentation. De ce point de vue, évidemment, ce qu'on appelle le nouveau monde tient une place singulière, ce monde déjà habité, arpenté, raconté, mais qu'il fallait faire nouveau. Qu'est-ce que c'est alors qu'un récit du nouveau monde? Pourquoi monde plutôt que pays, terre, paysage? Qu'est-ce qui du territoire doit se défigurer, hein? Que faut-il gratter, notamment d'une histoire autochtone? Comment se reterritorialisent des récits européens? Comment se dessinent des cartographies qui agglomèrent souvenirs et espoirs venus d'ailleurs? Expériences inattendues d'une terre, à la fois vécue et rêvée, désirée et refusée. Et donc, dans la présentation, je pars souvent du territoire palimpseste pour lire Marine l'Incarnation. Alors, cette notion de palimpseste est aussi intimement liée à l'expérience du croyant. Alors, Michel de Certeau commence ainsi La faiblesse de croire, qui est un texte qui est paru posthume en 1987. La prière se crée un espace sacré. Cercle de l'oraison, incluso in circulo, des moines de l'Antiquité chrétienne, cercle, mandala, dans lesquels est introduit le néophyte indien, église destinée à rassembler les fidèles autour de l'autel, cellule où le moine recueille ses facultés au centre. La prière organise ses espaces avec des gestes qui donnent à un lieu ses dimensions et à l'homme une orientation religieuse. Elle meuble cet espace d'objets mis à part, bénis et consacrés, qui épellent son silence et deviennent le langage de ses intentions. Elle construit de la sorte, grâce au compte-rendu de tant d'itinéraires spirituels, une carte, analogue aux cartes du tendre, dessinée d'après les aventures d'amour. Alors ce passage est particulièrement précieux pour aborder ce que peut être le territoire dans les écrits de Marie Guyard, dite de l'Incarnation. Un espace, en effet, accueille le geste de prière, nous dit de Certeau, en même temps qu'il est créé par lui. Par le geste de prière, le corps en mouvement circulaire, par les corps solitaires ou les corps rassemblés. Le lieu charge symboliquement et spirituellement les déplacements, les postures, hein, les fidèles sont tournés vers l'autel. Il y a ainsi une orientation religieuse qui est aussi bien le lieu où porte le regard du priant que son choix confessionnel. Mais ces postures, à leur tour, constituent ou teintent des espaces qui sont à la fois physiques, hein, églises, cellules, meublées, faire-autel, donner des dimensions, collecte ou consacre des objets, hein, donc des lieux qui sont à la fois physiques, allégoriques, la prière et le langage des intentions, et anagogiques, cartes d'itinéraire spirituel porteuses d'un sens mystique et sacré. Là où se fait la prière, s'engage ainsi une lecture exégétique qui ne peut délier la pratique concrète et sensible d'un espace désiré vers lequel cette pratique oriente, lieu qui est à la fois bien là, c'est bien son existence après tout qui consacre la carte laïque, et toujours absent, ce sera peut-être la mère dangereuse, hein, de la carte du tendre. Palimpseste de signification que suggère donc l'herméneutique sacrée et palimpseste d'histoire, la multiplicité fait sens et importance puisque le fidèle prie là où d'autres fidèles avant lui ont prié. Palimpseste que double, d'une part l'existence d'un lieu et d'espace actuel immanent et d'un lieu désiré transcendant et d'autre part l'expérience territoriale du mouvement, il y a les itinéraires et l'expérience d'un enracinement, les autels, les cellules qu'il faut bâtir. Alors toutes ces tensions traversent les écrits de Marie de l'Incarnation, missionnaire qui travailla, je le rappelle, donc a fondé à partir de 1639 le couvent des Ursulines à Québec, en Nouvelle-France. Ces écrits témoignent certainement des géographies complexes mentionnées par de Certeau, mais ils sont également pris dans une autre dynamique, celle de la carte politique cette fois, qui planifie, organise, carte de colonie et de domination. Marie de l'Incarnation écrit dans un contexte de conquête territoriale, dont elle est une actrice, conquête aussi bien religieuse que politique, et le territoire qui se dessine dans ses textes est aussi celui-là, territoire sédentaire, marqué par des constructions qui, toutes fragiles qu'elles soient, n'en défont, brutalisent pas moins un territoire déjà là, celui des Hurons, des Iroquois, des Montagnais, qui n'a pas du tout la même carte et qui n'est pas non plus parcouru par les mêmes mouvements. Enfin, et puisque de Certeau mentionne la carte du tendre, il faut rappeler que Marie de l'Incarnation est peut-être tributaire également d'un imaginaire cartographique singulier en ce milieu du XVIIe siècle, entre enthousiasme de la découverte, l'ivresse d'un savoir qui prend nouveau visage et l'angoisse de confins plus tout à fait perceptible, et on peut penser ici évidemment à Pascal. Ou la cartographie d'un territoire est aussi pour les contemporains ligne de crainte, lieu pas vu mais peut-être là, lieu dont parfois personne n'est revenu, ligne aussi d'un savoir-vivre, un tracé de gestes, de manière, une découpe de politesse. Alors, c'est une introduction un peu longue mais nécessaire, je crois, afin de saisir d'emblée la complexité et la richesse que représente ce corpus de Marie de l'Incarnation, donc pour penser cette question qui était donc celle du territoire palimpseste. Alors, pour essayer de comprendre la façon dont cette question travaille les écrits de Marie de l'Incarnation, je m'intéresserai spécifiquement à trois pratiques particulières de l'espace qui me semblent définir le territoire dans la poétique de l'Ursuline. Partir, d'abord, puisque la première expérience est celle du départ, et ce dès l'enfance. Et de ce point de vue, le territoire est d'abord et avant tout, chez Marie de l'Incarnation, un lieu quitté. Deuxième point, parcourir ou traverser, mouvement qui, comme le premier, est profondément lié à l'itinérance ou au voyage missionnaire, mais qui rappelle aussi, bien sûr, le passage transitoire et éphémère du chrétien sur terre. Et troisième point, habiter, qui, à mon sens, est l'expérience impossible de Marie de l'Incarnation, missionnaire. Quoique l'Ursuline lutte contre tout pour fonder un couvent, marquer un lieu où on se reconnaît, et qu'elle-même soit passée à l'histoire comme fondatrice des Ursulines notamment, la Nouvelle-France reste néanmoins un lieu impossible à habiter. Et cette impossibilité est constitutive de l'écriture et du style même de Marie de l'Incarnation. Alors je m'appuierai à la fois sur sa correspondance et sur la relation de 1654. Et en fait, je ne présente ici que des pistes et des hypothèses, un travail qui, je m'en rends compte jour après jour, demanderait en fait une enquête beaucoup plus systématique et beaucoup plus longue. Alors je commence donc par quitter, partir. Le lexicographe Richelet, en 1680, dans son dictionnaire, rattache le substantif « territoire » au verbe « terrir », « terme de mer », dit-il, qui signifie, je le cite, « prendre terre après une longue traversée ». Avant le territoire, il y a donc une longue traversée et un monde à laisser derrière soi. De façon remarquable, c'est bien ainsi que commence la relation de 1654. Alors, un mot sur ce texte pour en clarifier le statut rapidement. C'est un texte, un récit autobiographique, qu'écrit Marie de l'Incarnation. Elle a alors 55 ans, elle meurt 18 ans plus tard, et qu'elle écrit à la demande de son fils. Cette relation mêle de façon absolument inséparable l'expérience mystique et l'expérience missionnaire au Québec, avers et revers d'un même voyage pour la narratrice. Il y a donc l'autobiographie spirituelle, avec les topoi qu'on trouve dans ce genre habituellement, donc la conversion, la rechute, l'errance, l'entrée en religion, l'abandon du fils pour rentrer aux Ursulines, les oraisons, les mortifications, l'appel à Dieu pour le Canada. Donc autobiographie spirituelle et la relation d'une voyageuse en Nouvelle-France, où là aussi on va retrouver les topoi du genre, le froid, la faim, la rencontre des autochtones, l'établissement, la quête d'argent. Alors la relation de 54 s'ouvre sur ces mots. Dès mon enfance, la divine majesté voulant mettre des dispositions dans mon âme pour la rendre son temple et le réceptacle de ses miséricordieuses faveurs, je n'avais qu'environ 7 ans, qu'une nuit, en mon sommeil. Et à partir de là, Marie de l'Incarnation raconte la visite donc, de ce qu'elle appelle la suradorable majesté, qui, donc s'approchant de moi, mon cœur se sentit tout embrasé de son amour. Je commençais à étendre mes bras pour l'embrasser. L'or, lui, le plus beau de tous les enfants des hommes, m'embrassant et me baisant amoureusement, me dit « Voulez-vous être à moi ?» Je lui répondis « Oui ». À partir de là, Marie de l'Incarnation égrène plusieurs des motifs propres au récit mystique et qui, pour beaucoup, rappellent ce récit inaugural, qui abrite le divin, n'est plus tout à fait de ce monde. Ce sentiment intérieur met l'âme, dit-elle, dans un état plus détaché, âme qui ne veut, je la cite encore, à rien suivre que le chemin, que celui à qui elle tend. Âme qui connaît, je la cite encore, extase et ravissement, et qui est littéralement enlevée par force et violence, voire détruite. Hors de soi et enlevée au monde, la narratrice est itinérante, de passage, ce qui constitue bien sûr l'expérience première du chrétien. Paul, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, annonce, je cite, « Car nous n'avons point ici de ville permanente, mais nous cherchons celle où nous ne vons habiter un jour. » Dans une lettre de septembre 1656, Marie de l'Incarnation reprend elle-même, je la cite, « Soyons donc dans le monde comme si nous n'y étions pas. » Chrétienne, Marie de l'Incarnation est donc constamment prise dans les vicissitudes et les grâces d'une longue traversée. Il y a déjà la palimpseste, hein, puisque Marie de l'Incarnation refait encore et en esprit le chemin décrit par Paul. Deux éléments néanmoins me paraissent absolument singuliers, et notamment par rapport à d'autres biographies ou autobiographies de mystiques. Alors je pense notamment à Thérèse d'Avila ou Jeanne des Anges. D'une part, la relation qui revient sur la généalogie d'un établissement dans un autre monde, commence par une double absence de la narratrice. Elle qui rêve, hein, une nuit en mon sommeil, et qui avant tout récit d'elle-même, c'est-à-dire avant de parler, comme on va trouver chez Davila ou Jeanne des Anges, ou en fait même chez saint Augustin, mais avant de parler de ses parents, de sa naissance, ses péchés de jeunesse, ou avant toute prière, fait un récit d'enlèvement. Passant d'enfance, hein, dès mon enfance, l'infant, qui pour l'ancien régime n'a ni parole ni raison, à l'âge de raison, donc 7 ans, par le rêve et la visitation de Dieu. Autrement dit, Marie de l'Incarnation n'a jamais été de ce monde. Enfant, elle n'est pas pour ses contemporains citoyennes ou personnes à part entière. L'entrée dans l'âge de raison est marquée par une initiation non à l'adolescence ou à l'âge adulte, mais par un renoncement, voulez-vous être à moi. La narratrice est au Seigneur, à lui et en lui, et donc pas là, ni au lieu d'énonciation, ni au monde laïque. De ce point de vue, le départ est l'expérience inaugurale qui, sur un plan cette fois narratif, va structurer l'ensemble de la relation. Alors, c'est mon deuxième point. Tout au long de la relation 1654, l'enlèvement mystique, donc ravissement, appel à l'autre monde, se double de départ physique et géographique, qui rythme le récit de vie de l'Ursuline. Mariée à 19 ans, veuve 2 ans plus tard, avec un très jeune enfant, Marie Guyard travaille longtemps pour redresser les affaires de son mari défunt, et puis s'installe chez sa sœur, et s'investit à ce moment-là dans le négoce de son beau-frère. Aspirant très tôt au cloître, sujette à une expérience mystique à 20 ans, elle n'entrera pas aux Ursulines de Tours avant 1631, elle a 30 ans. Et durant toute cette période, religieuse dans le monde, elle répète son aspiration à quitter les travaux des jours et la vie mondaine. Alors je vous donne un exemple parmi d'autres. Maintenant, je ne puis comprendre comment je pouvais faire ni trouver les moyens parmi une si grande famille comme l'était celle de mon frère. J'allais partout sans chandelle, me mettant peu en peine d'être vue ou entendue. La cave, les greniers, la cour, l'écurie pleine de chevaux étaient mes stations. La nuit, je me mettais en danger de me blesser. J'étais aveugle à tout. Pourvu que je trouvasse lieu à me cacher, ce m'était assez. Alors cherchant donc lieu et station, alors station au sens de lieu de dévotion, elle quitte le logis, la famille, pour, comme le disait de Certeau, hein, faire des caves, greniers, écuries, des lieux de prière. Elle resémantise, si on veut, les lieux de travail, du travail ordinaire et terrestre, hein, la cave, le grenier, la cour, qui sont littéralement les lieux du travail de la terre, enfin les lieux du territoire, en station, lieu d'un travail ou d'un exercice spirituel cette fois. Alors, il faut noter par ailleurs cet élan paradoxal, signe d'errance, l'indifférence d'être vue ou entendue, mais la nécessité du grenier pour se cacher, aller partout sans chandelle aveugle pour trouver la suradorable majesté qui est le signe de la lumière. C'est aussi cela la station, ce lieu qui en veut un autre, en tout cas lieu de départ. Pause, demeure de peu de durée qu'on fait en un lieu pour se reposer, dit Corneille, alors l'autre Thomas Corneille, dans son dictionnaire de 1694. Thomas Corneille qui ajoute donc dans ce dictionnaire « Pour station, hein, en termes de géométrie, se dit du changement des lieux qu'on choisit pour faire des observations, ce qui oblige ceux qui font des cartes topographiques à faire différentes stations sur les éminences, d'où ils peuvent considérer les distances et les angles des villages pour les placer où ils doivent être mis. » Marie l'Incarnation a choisi ses éminences, hein, la cave, le grenier, topographie mondaine, temporelle, visible en même temps que dérobée, d'où considérer la distance qui la sépare encore d'un autre lieu. Chez le frère donc, elle veut être en prière dans le grenier, et dans le monde, mourant, dit-elle, toute vive, elle n'a de pensée que pour le couvent des Ursulines qui vient de s'établir à Tours. Une voix me poursuivait partout, et qui me disait « Hâte-toi, il est temps, il n'y a plus rien à faire pour toi dans le monde ». Elle quitte alors sa famille et surtout son fils. Je quittais donc ce que j'avais de plus cher un matin, jour de la conversion de Saint-Paul, 1631. Mon fils vint avec moi, qui pleurait amèrement en me quittant, et le voyant, il me semblait qu'on me séparait en deux. Mais dès l'entrée au couvent, elle est déjà ailleurs. J'avais outre cela quelque chose dans moi, dès que je fus aux Ursulines, qui me disait que la divine bonté me mettait en cette maison comme un lieu de refuge, jusqu'à ce qu'elle disposât de moi pour ses desseins. Comme dans l'attente, dit-elle, d'un autre départ, donc, il sera une première vision de ce qu'elle appelle les grandes vastitudes, d'un esprit qui la porte, je la cite, hein, dans les Indes, au Japon, dans l'Amérique, dans l'Orient, dans l'Occident, dans les parties du Canada et dans les Hurons. Elle comprend rapidement qu'elle est appelée à rejoindre ce qu'elle appelle la mission de Canada, révélation qui arrive à peu près au milieu de la relation. Dès 1635, je la cite, « Mon amour se portait à celle, donc aux âmes, qui étaient les plus abandonnées dans les pays sauvages où je me promenais sans cesse. » Alors on entend évidemment le travail lexical, hein, quitter, se porter, chercher refuge. En réalité, elle ne part pas avant 1639 et les luttes administratives, pratiques, intérieures sont nombreuses avant de rejoindre ce grand pays. Arrivée en Nouvelle-France, elle assure « Étant donc arrivée en ce pays, le voyant, je le reconnus être celui que notre Seigneur m'avait montré il y a 6 ans. Ces grandes montagnes, ces vastitudes, la situation et la forme qui étaient encore marquées dans mon esprit comme à l'heure même, ce qui renouvela beaucoup la ferveur de ma vocation et une pente par un abandon de tout moi-même pour tout souffrir et faire ce que notre Seigneur voudrait de moi en ce nouvel établissement. » Mais ce qu'elle appellera dans ses correspondances cet estimable pays, ou encore ce bout de monde, ne fait pas non plus tout à fait territoire, terre abordée après longue traversée. À une Ursuline, qui craint pour la colonie, Marie de l'Incarnation assure dans une lettre de 1648, « Pour moi, je vous le dis franchement, je n'ai peur de rien. Et quoique je sois la plus misérable du monde, je suis prête et me sens dans la disposition d'aller aux extrémités de la terre, quelque barbare qu'elle soit, si l'on veut m'y envoyer. » Motif sur lequel elle revient souvent dans la correspondance, hein, elle est prête à repartir, à tout quitter, à tout instant. Cette première approche du territoire, plutôt lieu de passage, station, hein, ce qui est laissé derrière soi car lieu de refuge transitoire, est encore une fois inaugurale et déterminante dans les écrits de Marie de l'Incarnation. Et on ne peut pas saisir, il me semble, les paradoxes d'une écriture pourtant dédiée à la fondation sans partir de cette expérience première de l'espace. Si la géographie lie intimement trajectoire spirituelle et voyage apostolique, Marie de l'Incarnation dessine constamment des lignes de fuite. Sa carte est moins un travail d'établissement, je crois, qu'une perspective d'échappée, marquée lexicalement par l'opposition à quitter station, refuge, départ, se cacher, ne pas se soucier d'être vu. Alors, deuxième point, la question de parcourir, traverser. Donc, pour cartographier un territoire, se l'approprier aussi, il faut le traverser, le parcourir, l'explorer. Là aussi, c'est un autre paradoxe de cette voyageuse qui finalement se déplace très peu. Elle traverse certes l'océan, et ce dans de grandes frayeurs, en raison, dit-elle, des tourments de la mer qui ont été très grands, du mal de mer et d'une glace qu'elle dit monstrueuse, parue dans la brume et sur lequel le vaisseau manque de s'écraser. Je la cite, « Ce que je vis me parut épouvantable, et je n'eus jamais cru que la mer eût pu porter une si lourde masse sans couler à fond. » Tout l'équipage est saisi d'effroi, les sœurs prient et s'en sortent vivants. Mais ce voyage de 3 mois ne sera pas un récit d'aventure. Je la cite, « Dans toute la traversée, nous gardâmes exactement nos règles. » Et, ajoute-t-elle dans une lettre à la supérieure des Ursulines de Tours, « Nous sommes à 7 heures, donc sur le vaisseau, dans une aussi bonne disposition que si nous étions dans notre monastère. » Autrement dit, la traversée est aussi lieu de clôture et l'Ursuline y sera immobile, pieuse, consacrant le bateau en monastère. Et là, je fais une parenthèse que j'ai pas le temps de développer, puis j'ai pas plus réfléchi que ça, mais en passant, le monastère et l'église, enfin le monastère, pardon, et le bateau sont deux lieux de transition d'un monde à l'autre. Il n'est pas anodin que Marie de l'Incarnation ait peur de mourir à ce moment-là, sacrifiant pour le coup au topos du converti et du voyageur tout à la fois. Avant d'aborder une terre neuve, il faut soi-même être rené, avoir connu le passage par la nuit, la mort symbolique et par, enfin, si on veut, une autre cave. Je ferme la parenthèse. Alors, je passerai plus vite sur ce paradoxe d'une voyageuse immobile qui a déjà été très bien étudiée, notamment par Nathalie Friedel. Simplement, après cette effroyable traversée de l'océan, Marie de l'Incarnation est rapidement conduite jusqu'à Québec, dont ensuite elle ne bougera plus, retrouvant la clôture qui fut donc la sienne à Tours. Ce sont les autres qui voyagent. Quand elle est en France, elle lit et apprend les relations qui lui parviennent. Je cite, « Une relation qui fait espérer que les Hurons embrasseront bientôt notre sainte foi », dit-elle à son directeur en ajoutant, « Quoique je n'aille pas en Canada avec vous, je vous suivrai en esprit. » Cette opposition entre station de l'auteur et mobilité alentour se répète en Nouvelle-France. Tension particulièrement frappante dans la correspondance, des chaloupes qui arrivent et elle a des nouvelles des Français établis ailleurs au Québec. Les lettres circulent d'Europe en Nouvelle-France et c'est ainsi qu'elle transmet l'actualité de ce qui se passe à l'extérieur du couvent. Navires, vaisseaux, bateaux pêcheurs assurent la circulation des nouvelles, les bonnes comme les plus menaçantes, hein, les attaques possibles, les martyrs, Daniel Brébeuf, l'allemand par exemple. Ainsi les lettres cartographient un espace pas toujours vu. Je la cite, les premiers fondements de l'église ont été jetés cette année à Miscou, qui est une habitation de Français, écrit-elle à son fils. À 10 lieues de là, on a bâti une chapelle et établi une grande mission pour les sauvages du côté nord, 100 lieues en deçà et la mission de Tadoussac, etc. Carte marquée par la circulation de nouvelles, les nécessités du commerce, les passages des uns et des autres, par les guerres, mais aussi par les filles qu'on se donne. Je la cite, hein, on parle de nous donner deux filles en cette nation avec deux Algonquines, de cette nation pardon, avec deux Algonquines, outre 18 autres dont notre séminaire a été rempli, sans parler des filles externes qui viennent continuellement. Véritable économie, marchande, humaine, politique, où tout se mesure et se compte, se passe et fait transaction, nombre de baptisés, de morts, de morceaux de pain. La traversée du territoire que relate Marie de l'Incarnation, tandis qu'elle bouge si peu, est inséparable d'un perpétuel comptage, de pesées, de balisages, qui, je l'ai dit tout à l'heure, rappelle qu'il s'agit d'un territoire à gagner. De ce point de vue, la géographie jésuite nécessite et impose une sédentarité, produisant par là une autre forme de palimpseste, de gestes et de mouvements cette fois, avec une violence absolument indéniable. Un exemple, parmi d'autres, pour terminer là-dessus, qui est extrait d'une lettre de septembre 1640. La première séminariste sauvage qu'on nous donna, appelée Marie Negama, était si accoutumée à courir dans le bois que l'on perdait toute espérance de la retenir dans le séminaire. Le père Lejeune, qui avait porté son père à nous la donner, envoya avec elle deux grandes filles sauvages chrétiennes qui demeurèrent quelque temps avec elle pour la fixer. Mais ce fut en vain, car elle s'enfuit 4 jours après dans les bois, ayant mis en pièces une robe que nous lui avions donnée. Alors la jeune fille est ramenée au séminaire par son père, et je cite Marie de l'Incarnation, « Elle n'y fut pas 2 jours qu'il y eut un changement admirable. » Alors quel est le changement admirable? Elle tombe à genoux, elle demande pardon et ne s'enfuit plus. Pratique distincte donc du territoire qui se lise aussi dans la différenciation des gestes, courir dans le bois contre l'enfermement conventuel, s'enfuir contre tomber à genoux. Dans ce cas, il s'agit bien d'effacer une carte pour une autre, de modifier des pratiques pour d'autres. Effacer courir pour écrire fixer. La mobilité des Français, leur commerce, le trafic est inséparable d'une immobilisation des jeunes Hurons. Se dessinent ainsi plusieurs autres frontières, celles qui fondent la vie conventuelle, le cloître ou l'espace des Ursulines contre l'ouverture des bois, celles qui distinguent des manières d'habiter, sédentaires contre nomades ou semi-nomades, et celles qui marquent les genres, les jeunes filles bien élevées ne courent pas dans les bois. Il y aura beaucoup, alors il y aurait énormément en fait à dire là-dessus, mais vous voyez que la carte donc, est bien aussi politique hein, et que la pensée du geste, du déplacement, c'est aussi un dispositif de domination. Alors j'en viens à mon dernier point, la question de l'habiter, puisqu'il s'agit après tout d'un établissement, ce que Marie l'Incarnation appelle la grande affaire, d'une fondation, et que, au sujet du Canada, Marie de l'Incarnation oppose bien dans ses lettres « Votre France » et « Notre France, la nouvelle ». Il y a plusieurs modalités de l'habiter, qui chacune détermine une représentation particulière du territoire. Bâtir, détruire, meubler, nommer, délimiter, chez toi, chez moi, lieu de prière, lieu de travail. Dans le cas des écrits de Marie de l'Incarnation, habiter est inséparable de fonder. Fonder, alors je m'appuie ici sur les travaux de la sociologue Marie Segaud, c'est, et je cite Marie Segaud ici pour fonder, c'est une opération volontariste décidant d'une implantation ponctuelle, maison, monument, ou plus ample, ville-territoire. Elle est accomplie par une autorité reconnue civile ou religieuse, selon des rites. Il s'agit de penser le site, le commencement et les origines, de faire territoire. Fonder, c'est toujours attribuer des qualités à un espace, c'est établir une relation d'une partie de l'étendue avec le monde en tissant des liens symboliques, c'est mettre en rapport un lieu et l'univers. Et Marie Segaud rappelle que pour beaucoup d'ethnologues, fonder consiste à, je la cite encore, faire passer un espace d'un statut à un autre. Et on est là évidemment en plein dans l'entreprise missionnaire. Alors je me concentre pour ma part sur la question du bâtir, surtout sa fragilité, ce qui me permettra de terminer donc sur le problème du chez-soi, qui reste essentiel pour les philosophes et anthropologues à la pensée du territoire. Avant d'aborder au Québec, Marie de l'Incarnation parle d'un pays très mauvais. Par la suite, l'imaginaire est plutôt celui de la fragilité, fragilité due au manque matériel et à une nature omniprésente. Alors à son fils par exemple, elle explique en octobre 1645 « Mais qui vous peut avoir dit que j'ai eu de la peine en notre établissement ? Oui, j'en ai eu. Et sans l'avoir expérimenté, il serait difficile de croire combien il se rend compte de difficultés dans un établissement qui se fait en un pays nouveau et tout barbare, éloigné de la France et dans un abandonnement si pur à la divine providence qu'il ne le peut être davantage. L'éloignement par rapport à la France spatialise en fait 2 difficultés majeures pour l'auteur. La première, obtenir des fonds pour construire et soutenir les Ursulines et les jeunes autochtones pris en charge par le couvent. Et deuxième chose, obtenir un archevêché, qui va être un des grands combats de Marie de l'Incarnation, obtenir un archevêché, seule façon d'établir les sœurs qui sinon dépendent d'un archevêque en France, et donc peuvent partir ou être appelés à tout moment. C'est là véritablement l'impossibilité d'un territoire. Au refus des autorités ecclésiastiques françaises, Marie de l'Incarnation affirme « Pour moi, mon sentiment est que Dieu ne veut pas encore d'évêque en Canada, le pays n'étant pas encore assez fait. » Ce pays pas encore assez fait, c'est le triple sacerdoce de l'Ursuline, évangéliser les âmes, bâtir des lieux de culte et, l'épreuve intérieure, car le pays est indissociablement ce pays de croix qu'est le Québec et le pays intérieur. Je cite une autre lettre à son fils de 1552. Je vous assure qu'il me faut un courage plus que d'homme pour porter les croix qui naissent à mon sens, tant dans nos affaires particulières que dans les générales du pays, où tout est plein d'épines, parmi lesquelles il faut marcher dans l'obscurité et où les plus clairvoyants sont aveugles et où tout est incertain. De fait, l'Ursuline qui est en charge la conduite et l'économie de l'établissement éprouve, dit-elle, je la cite, « bien des peines et des fatigues dans les difficultés qui se rencontrent dans ce pays couvert de neige jusqu'en mai. » Il y a la neige, il y a le tonnerre, je cite, qui écrasa en un moment la grange de nos métairies, tua nos bœufs, écrasa notre laboureur, ce qui nous mit en perte de 4000 livres. Il y a les tremblements de terre, les attaques des Iroquois, il y a les ouragans qui laissent, je la cite encore, tant de débris en ce pays-là. Il y a la violence des tempêtes, il y a le froid qui, même quand les Ursulines ont finalement, je la cite, la plus belle et la plus grande maison de pierre qui soit en Canada, ne permet pas d'y rester en hiver sans s'approcher du feu, et même là, dit-elle, ce serait un excès d'y demeurer une heure. Territoire et corps à tout vent, soumis à une providence encore plus indéchiffrable qu'en Europe. Je la cite, « Dieu néanmoins a des voies qui nous sont inconnues, surtout dans un pays flottant et incertain comme celui-ci, où naturellement parlant, il n'y a pas plus d'assurance qu'aux feuilles des arbres quand elles sont agitées par le vent. Et de même que la fragilité organique de la feuille qui risque toujours de se détacher de la branche devient la métonymie de ce grand pays, les Ursulines pourraient bien d'un souffle être balayées à chaque instant. De même, ce pays flottant est symboliquement, autant que littéralement, le travail, l'exercice journalier d'une religieuse pour se défaire d'elle-même. Je ne vois goutte en toutes mes affaires, et néanmoins, nonobstant mon aveuglement, elles se font sans que je puisse dire comment. Cela s'entend de l'établissement du pays en général, de l'état des familles en particulier, il en est de même du spirituel. N'y voir goutte, comme précédemment l'image des plus clairvoyants devenus aveugles, c'est aussi bien l'épreuve de la fondatrice, hein, je ne connais pas le pays, je ne connais pas la langue, que l'épreuve de la pénitente. Dans la relation de 1654, Marie de l'Incarnation dit ceci, le détriment de son Église, donc de l'Église de Dieu, me crucifie intérieurement. Tous les maux de la colonie, accueillis comme des nécessités de la Providence, sont donc aussi des épreuves spirituelles et intérieures. À propos de l'incendie qui ravage en 1650 le couvent des Ursulines et ne laisse rien derrière lui, Marie de l'Incarnation témoigne. C'était un spectacle pitoyable à voir. Une bonne personne regardait les sœurs, les voyant si tranquilles, dit tout haut qu'il fallait que nous fussions folles ou que nous eussions un grand amour de Dieu, d'être sans émotion dans la perte de nos biens et de nous voir en de petits moments réduits à rien sur la neige. Mais c'est bien finalement ce spectacle pitoyable que désire Marie de l'Incarnation et d'être précisément réduite à rien. J'ai dit tout à l'heure qu'elle reprenait et travaillait continuellement l'idée d'un intérieur qui ne peut être que l'abri ou le temple du divin, ce qu'elle appelle pauvreté d'esprit, et pour lequel elle reprendra les propos de Paul, citant Paul parce qu'elle a modifié un peu la citation, mais « Jésus-Christ est ma vie et ma vie est Jésus-Christ, ce n'est pas moi qui vis, mais Jésus-Christ qui vit en moi. » Ursuline, dans ses oraisons, ses lettres, son autobiographie, raconte et redit sans cesse ce que nécessite cet accueil et cette rencontre avec le divin, l'altérité la plus absolue. Je la cite, « Les effets que porte cet état sont toujours un anéantissement et une véritable et foncière connaissance qu'on est le néant et l'impuissance même, une basse estime de soi et de son propre opéré. » C'est donc aussi dans son sens le plus fort qu'il faut comprendre la citation que je vous donnais tout à l'heure sur les stations, quand elle dit « j'étais aveugle à tout, pourvu que je trouvasse lieu à me cacher, ce m'était assez ». Se cacher, c'est aussi n'être plus là, plus visible, rangé au grenier, à la cave, si j'ose dire, pour faire toute la place à autre chose. Or, de même que l'intériorité n'abrite pas un moi qui constamment cherche à disparaître, de même je ne crois pas que l'Ursuline habite le territoire qui n'est de toute façon qu'édification à la gloire de Dieu. De même que dans la relation, elle dit, je la cite, « Je ne pensais pas écrire ceci, mais l'esprit intérieur m'a porté là. » De même, l'esprit intérieur la porte en Canada. Là, qui n'est pas son lieu, mais lieu d'une autre parole. Et pas plus qu'elle n'est là du point de vue de l'énonciation, elle n'est là dans ce pays de croix. Il y a ainsi identification, ou au moins récit commun, entre ce pays flottant et incertain et l'expérience mystique. Car si elle déclare de cette terre difficile qu'elle est un abandonnement si pur à la divine providence qu'il ne le peut être davantage, elle répète, et là on est vraiment dans l'idée de l'exercice spirituel tel que le définit Adot, hein, elle répète comme une prière écrite à elle et à ses contemporains, la nécessité de, je la cite, s'abandonner volontairement à Dieu, d'abandonner, je la cite encore, le tout à sa conduite pour le temps et l'éternité, pour l'âme qu'elle, je la cite encore, s'abandonne aux dispositions et ordonnances divines et l'inclination qu'elle ressent de se consumer pour Jésus-Christ. Pays de l'abandonnement si pur, où expérimenter l'abandonnement de soi, je la cite encore, l'âme expérimente ce que Dieu lui avait fait connaître des abandonnements qu'elle devait souffrir en Canada, c'est le 12e état d'oraison dans les lettres. C'est aussi pourquoi l'absence inaugurale de la relation paraît si importante. Le paradoxe est bien celui d'une écriture autant que de la fondation, de l'écriture autant que de la fondation. Comment écrire au jeu quand le moi travaille si désespérément à ne pas être? Comment fonder une maison, un territoire, quand on ne peut pas l'habiter? Et si en bout de ligne, il y a palimpseste, géographique, discursif, c'est bien qu'il faut, avec toute la brutalité et la férocité que ça suppose, gratter, effacer, recouvrir des singularités, des histoires, des cultures autochtones, de l'histoire d'un autre, enfin d'un autre avec un grand A, qui pourtant, et l'Ursuline le sait bien, répéta devant Ponce Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Je vous remercie.